Radio Prague, les informations.
Bonjour et merci d'écouter Radio Prague. Voici les titres de l'actualité tchèque. Le dumping social est au cœur de la rencontre d'Emmanuel Macron avec les dirigeants centre-européens. Le premier tour de l'élection présidentielle tchèque aura lieu les 12 et 13 janvier prochains. La sécurité cybernétique et la lutte contre le terrorisme sont au menu de la visite du ministre tchèque de l'Intérieur en Israël. Le projet de révision de la directive européenne sur les travailleurs détachés et la lutte contre le dumping social sont au cœur de la rencontre ce mercredi à Salzbourg entre le président français Emmanuel Macron et les chefs des gouvernements tchèques, autrichiens et slovaques. Pour sa part, le premier ministre Bohuslav Sobotka entend inciter les entreprises tchèques et autrichiennes implantées en République tchèque à augmenter la rémunération de leurs employés. Outre la convergence des salaires au sein de l'Union européenne, le chef du gouvernement tchèque aborde avec le président français le sujet du partenariat stratégique entre la France et la République tchèque ainsi que la coopération bilatérale dans le domaine de la sécurité et de la défense. Le premier tour de la présidentielle 2018 se déroulera les 12 et 13 janvier. L'annonce a été faite ce mercredi matin par le président du Sénat, le social-démocrate Milan Štěch, dont c'est l'une des prérogatives. Il doit normalement faire connaître ces dates au plus tard 90 jours avant la tenue du scrutin. Milan Štěch a décidé de les annoncer bien plus tôt parce que, dit-il, beaucoup de candidats sont déjà connus et la campagne a de fait déjà commencé. De surcroît, cela devrait laisser davantage de temps à la nouvelle autorité de contrôle des finances des partis politiques pour faire son travail. Les personnes désireuses de succéder à Miloš Zeman au poste de chef de l'État ont jusqu'au 7 novembre pour déposer officiellement leur candidature. Le ministre social-démocrate de l'Intérieur, Milan Chovanec, poursuit sa visite de 3 jours en Israël. Ce mercredi, ils seront notamment au poste frontière de Kerem Shalom, situé près de la frontière égyptienne et qui constitue un des rares points de passage entre Israël et la bande de Gaza. La protection des frontières est aussi au menu de sa rencontre avec le ministre israélien de la Sécurité publique, Gilad Erdan. Les deux hommes politiques discutent également de l'approfondissement de la coopération bilatérale dans le domaine de lutte contre le terrorisme et la criminalité cybernétique, coopération lancée en 2014. Un appel d'offres de plusieurs milliards de couronnes pour la livraison de tramways à la ville de Varsovie en Pologne a été remporté par la société tchèque Škoda Transportation et finalement annulé. Dans un communiqué de presse, la porte-parole de l'entreprise, Lubomira Černá, fait part de cette information, indique que la firme a l'intention de poursuivre les discussions avec les autorités de la capitale polonaise. Selon le quotidien économique Gospodarskie Noviny, la commande portée sur la livraison de 213 tramways et représenterait une somme de 640 millions d'euros. C'est plus que toutes les recettes de Škoda Transportation pour l'exercice 2016. Les archives nationales du film ont présenté ce mercredi à Prague la copie numérisée du film Černý Petr, l'As de pique, tourné en 1963 par le réalisateur Miloš Forman. La version restaurée sera projetée le 4 septembre prochain à la Mostra internationale du cinéma de Venise, dans le cadre de la section réservée aux films classiques. D'après le directeur des archives nationales du film, les historiens du cinéma ont été assistés au cours du processus de restauration par Miloš Forman et son collaborateur Ivan Passer. Une scène inconnue du film a alors été découverte. Elle n'a cependant pas été inclue dans la version restaurée, mais elle figurera parmi les bonus sur le DVD. Côté météo, le ciel sera nuageux avec éclaircies jeudi, jour de la fête des Bartholomiei. Les températures seront à la hausse et varieront entre 26 et 29 degrés pour les maximales. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková à la suite du programme avec Pierre Maignan.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle émission de Radio Prague et merci tout d'abord évidemment à Magdalena Hrozinková pour son bulletin d'information à nouveau très complet. Riche programme que nous vous avons préparé ce mercredi, puisqu'il sera tout d'abord question avec Côme de Lannery de la présidentielle tchèque, dont la campagne a été lancée ce mercredi par le chef du Sénat avec l'annonce de la date du scrutin début janvier 2018. On parlera ensuite de corruption dans le sport avec la campagne lancée par Transparency International pour freiner le phénomène. Enfin, dans la rubrique historique, comme chaque mercredi, nous vous proposerons un portrait de František Kriegel, le seul dirigeant communiste à avoir dit non au protocole de Moscou qui légalisait l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, voici tout juste 49 ans. Bonne écoute à tous et à toutes. On le sait depuis ce mercredi matin, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu les 12 et 13 janvier 2018. Alors que la liste des candidats se précise, retour sur les enjeux de ce scrutin avec Côme de Lannery.
C'est le président du Sénat, Milan Hrtier, qui a annoncé la date du vote. Il officialise ainsi le lancement d'une campagne que les principaux candidats ont en réalité déjà entamée depuis plusieurs semaines. Ils ont désormais 5 mois pour convaincre un maximum d'électeurs de voter pour eux lors du premier tour. Si aucun n'obtient la majorité absolue, les Tchèques devront départager les deux finalistes à l'occasion d'un second tour, organisé 2 semaines plus tard, les 26 et 27 janvier. A noter que le premier tour aurait légalement pu se tenir 1 semaine plus tard, un choix écarté pour éviter que le second tour ne tombe dans une période de vacances pour certaines régions. Chaque candidat pourra dépenser jusqu'à 40 millions de couronnes, voire 10 millions de plus pour les finalistes.
Et en parlant de candidats, qui sont-ils communs ?
Alors, 3 prétendants ont d'ores et déjà recueilli les 50 000 signatures citoyennes nécessaires. On retrouve tout d'abord le chef de l'État sortant, Miloš Zeman, candidat à sa propre succession, qui tentera de rester le seul président tchèque élu au suffrage universel direct, système introduit en 2013. Le musicien Michal Horáček et l'ancien directeur de l'Académie des sciences, Jiří Drahoš, complètent ce tableau provisoire. Les autres candidats déclarés ou pressentis sont nombreux, et ce sont tous des hommes, ou presque. Seule l'actrice Jana Ingland-Hruškova a jusqu'alors manifesté sa volonté de briguer la présidence de la République. Tous ont jusqu'au 7 novembre pour déposer 50 000 parrainages citoyens ou bien 20 signatures de députés ou 10 de sénateurs et ainsi officialiser leur candidature. Le sénateur Jaroslav Kubera a d'ores et déjà recueilli 19 parrainages de ses collègues, mais réserve pour l'heure sa décision. En 2013, les électeurs avaient pu choisir entre 9 candidats.
C'est une question que nous sommes nombreux à nous poser. Quelles sont les prochaines échéances liées à ce scrutin ?
Alors, le ministère de l'Intérieur examinera les signatures déposées par les candidats entre le 7 et le 13 novembre, ce qui permettra de connaître à ce moment, sauf défection, le nombre exact des candidats. La campagne entrera dans sa dernière ligne droite le 27 décembre, date de début d'une période de 14 jours, durant laquelle chaque candidat disposera de 5 heures de diffusion gratuite de spots électoraux sur Český rozhlas et Česká televize, la radio et la télévision publique. Enfin, il faut rappeler que les élections législatives sont organisées fin octobre 2017, comme tous les 4 ans. Les partis devraient pour certains sélectionner leurs candidats après cette échéance et les nouveaux rapports de force politiques pourraient influencer le choix des électeurs pour la présidentielle.
Et enfin, Côme, que se passera-t-il après le vote ?
C'est le 8 mars 2018, 50 jours pour jour après le début du mandat de Miloš Zeman, que son successeur, si l'actuel président n'est pas réélu, prendra officiellement ses fonctions. Après avoir promis fidélité à la République tchèque, il en deviendrait le 4e président, après également Václav Havel et Václav Klaus, qui avaient tous deux été élus par le Parlement. Il exercera alors un rôle de représentation du pays à l'étranger, la direction de l'exécutif étant réservée au chef du gouvernement dans le régime parlementaire tchèque.
Merci, Côme. La branche tchèque de Transparency International lance une campagne sur le thème de la corruption dans le monde du sport. Korupční vítězboj, qu'on pourrait traduire par épreuve combinée de corruption, c'est le nom de cette campagne qui vise à sensibiliser le public et à lui donner les moyens d'agir contre ce problème plutôt répandu si l'on en juge par les récentes affaires.
A my už se vám hlásíme z nově zrekonstruovaného stadionu Nepřátelství, kde se schyluje k historicky prvním ročníku závodu v korupčním víceboji.
Ano, protože se jedná o prestižní závod, tak ceny vstupenek nebyly opravdu malé, ale proto si je mohli dobrat jen ty největší srdce.
Une course de relais où le témoin n'est autre qu'une liasse de billets, ou bien encore la fameuse épreuve du lancer de valises pleines d'argent. Telles sont les disciplines présentées dans le spot publicitaire Korupchny Vitseboy. Le clip, bien réalisé et porté par les acteurs Petr Švrtniček et Jiří Labus, est drôle et percutant. Le pot de vin pour influencer un résultat, le dopage ou bien le détournement d'argent public, la vidéo souligne quelques-unes des multiples pratiques de corruption qui entachent le sport, un milieu particulièrement propice à ces dérives puisqu'il combine recherche de performance et brassage de beaucoup d'argent. Derrière cette campagne de Transparency International, il y a notamment la juriste Sylvie Klobouchková, un contacté par Radio Prague.
Transparency International s'intéresse à ce problème depuis longtemps et avec cette campagne, nous souhaitons faire en sorte que n'importe qui aurait envie de s'exprimer sur ce thème puisse se tourner vers nous pour le faire. Pour nous, ce n'est pas un sujet nouveau et ce n'est pas comme si nous réagissions aux récentes affaires. Mais l'affaire actuellement médiatisée prouve que nous avons visé juste, qu'il y a un problème, que le fonctionnement du sport n'est pas bon et qu'il y a besoin de trouver des solutions.
L'affaire actuellement médiatisée, c'est le scandale qui touche les plus hautes instances du football tchèque et des employés du ministère de l'Éducation. Miroslav Pelta, l'ancien président de la Fédération tchèque de football, est soupçonné d'avoir voulu détourner des subventions de ce cabinet destiné au sport. Voilà le genre d'affaire qui hérite au plus haut point un certain nombre de sportifs qui ont décidé de s'associer à la démarche de Transparency International. Pour ce faire, il se passe le relais via un témoin symbolique. Parmi ses champions, la joueuse de beach volley Kristina Hojdárová-Kolotsová.
Je suis très heureuse que ce témoin parvienne au beach volley et de pouvoir ainsi soutenir le relais Transparency International. Je serai d'autant plus heureuse quand l'argent dans le sport sera réparti de façon plus propre et de peut-être aussi de façon plus juste.
En 2015, l'ONG avait déjà lancé une opération dans le hockey sur glace après que l'entraîneur Vladimir Ruzička a été reconnu coupable de détournement d'une somme d'1,5 million de couronnes normalement due au Slavia Prague. L'initiative consistait à mettre à disposition du public une interface pour que une personne témoin d'un acte délictueux dans le hockey sache à qui s'adresser. La nouvelle campagne de Transparency International reprend et élargit cette idée. Sylvie Klobouchková.
Évidemment, cette campagne permet aussi de montrer aux gens qu'ils ont quelqu'un vers qui ils peuvent se tourner, quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Sur le site internet de la campagne, ils disposent d'un formulaire où ils peuvent rapporter des éléments, pas seulement sur les formes classiques de bakchich, mais également sur leur éventuel soupçon d'irrégularité dans la distribution de subventions ou bien encore dans des investissements dans des infrastructures sportives.
Le site internet où toutes les vidéos de la campagne et le fameux formulaire sont à retrouver est accessible à l'adresse suivante www.korupchnyvitseboy.cz.
A my se s vámi loučíme ze stadionu nepřátelství a těšíme se na další ročník korupčního víceboje. Moc.
On passe à la rubrique historique. Seul dirigeant tchécoslovaque communiste à avoir refusé de signer le protocole de Moscou, lequel entérinait l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie, František Kriegel a été pour ce fait d'armes décoré à titre posthume de l'ordre de Tomáš Garrigue Masaryk. Pour parler de ce personnage exceptionnel qui participa à la guerre d'Espagne et à la Seconde Guerre mondiale, avant de devenir un des artisans du régime communiste tchécoslovaque, pour finalement terminer dans la dissidence. Radio Prague a donné la parole au sociologue Michal Hul, qui avait tenté sans succès en 2014 d'élever František Kriegel au rang de citoyen d'honneur du 2e arrondissement de Prague. 49 ans après le début de l'invasion soviétique, il a paru utile de rediffuser le portrait de cet homme. C'est une rediffusion qui date de l'année 2014.
Chapitre de l'histoire.
Le documentaire Lechba Diein, Soigner l'histoire, réalisé en 2011 par Advit Janecek, s'ouvre sur la présentation de la photo de František Kriegel à différentes personnalités politiques contemporaines. Aucune ne le reconnaît. Mais à l'évocation de son nom, toutes, de droite comme de gauche, citent son courage à la fin de l'été 1968. Le conservateur Karl Schwarzenberg parle de celui, le seul, qui a dit non. Le social-démocrate Jerzy Dinsbier, actuel ministre en charge des droits de l'homme, déclare quant à lui.
Je pense que sa figure est pertinente aujourd'hui, car c'est le seul homme qui s'est comporté comme un homme d'État en temps de crise. Il a refusé de signer le protocole de Moscou et a assumé sa décision. Je pense que le courage est quelque chose qui manque beaucoup aux politiciens d'aujourd'hui.
Du courage, il en fallait certainement à František Kriegel. Quelques jours après l'invasion soviétique, dans la nuit du 20 au 21 août 1968, destinée à mettre un terme au printemps de Prague, 26 dirigeants tchécoslovaques sont contraints de se rendre à Moscou pour la négociation de ce protocole qui doit légaliser l'agression. František Kriegel est du voyage et selon Michal Hul, conseiller municipal vert à la mairie d'arrondissement de Prague 2, il était conscient des risques auxquels il s'exposait.
Il croyait qu'il va mourir à Moscou. Il s'est dit qu'il faut calculer la possibilité qu'on va me tuer. Mais c'est pour lui, c'était une chose de principe. Et il s'est dit non. C'est dans le passé de notre pays, on a un autre nom. C'est le nom de Jan Hus, qui était brûlé qu'il était réformateur de l'Église. Et lui, il s'est dit, je vais dire non, et bien peut-être ça va me coûter ma vie.
Ce fait d'armes est toutefois apprécié différemment par les 14 conseillers municipaux qui ont voté contre l'attribution de la citoyenneté d'honneur à František Kriegel. Certains mettent même en doute le caractère héroïque de ce dirigeant, estimant qu'il aurait servi de caution au régime. Au-delà de cet élément, c'est surtout l'engagement communiste de la première heure du médecin qui pose problème, notamment à droite de l'échiquier politique. Ainsi, la maire du 2e arrondissement de Prague, Jana Černochová, du Parti civique démocrate ODS, explique.
En février
1948, il était secrétaire en charge de l'organisation au sein de la section pragoise du Parti communiste tchécoslovaque de la KSČ et commandant adjoint des milices populaires. Il a donc pris part activement au coup d'État communiste.
Les détracteurs de František Kriegel ne peuvent lui pardonner ce rôle dans le coup de Prague, bien que Michal Hul assure qu'aucun document ne prouve qu'il ait commis des crimes quand il était dans la direction des milices populaires, position qui en soi peut être problématique. Quoi qu'il en soit, à cette époque, le leader communiste a déjà de la bouteille. Il est né 40 ans plus tôt, en 1908, dans une petite ville de l'Empire austro-hongrois, située dans l'actuelle Ukraine. Le petit František grandit dans une famille juive pauvre et est marqué à l'âge de 11 ans par le décès de son père. Michal Hul raconte la trajectoire qu'il suit dans sa jeunesse et qui va le mener vers le communisme.
Il y avait un problème, il ne pouvait pas aller à l'université à Lvov parce qu'il y avait des problèmes antisémitiques, c'est-à-dire parce qu'il était juif, il a quitté la région et il est allé à Prague. Prague était dans cette époque des années 20-30, une ville très ouverte. Et il est rentré dans l'université de Charles, dans la partie allemande. Il y avait une partie allemande. Et il a fait les études de médecine, c'est-à-dire il était médecin. En 1931, il est rentré dans le Parti communiste parce qu'il a vécu un passé ou une enfance très pauvre, dans une société très pauvre, et il a vu les inégalités dans la société. Il voulait trouver et chercher une autre organisation de la société.
Cet engagement va mener František Rigl à parcourir le monde en tant que médecin à l'occasion des conflits majeurs qui vont alors l'agiter. Il y aura la Seconde Guerre mondiale et avant cela, la guerre d'Espagne.
Quand la guerre en Espagne commençait, il s'est dit qu'en Espagne on fait la guerre aussi pour Prague, parce que c'était le début du fascisme en Europe, c'est-à-dire il s'est mis sur le côté républicaine contre l'armée de Franco. Quand la Seconde Guerre mondiale, parce que quand la guerre en Espagne a terminé, la Seconde Guerre mondiale a commencé, il a quitté l'Europe, il est allé en Chine, et là-bas, comme médecin, il a aidé l'armée de Chine dans les batailles contre le Japon, c'est-à-dire de nouveau du côté des alliés.
Qu'est-ce qui l'a poussé à aller se battre sur ce front-là ?
Il a quitté l'Europe parce que l'Europe était comme... Parce qu'il était juif, il pourrait être menacé en Europe. Après, il est allé plus loin, mais au début, il est allé en Chine. Et après, il est allé comme le membre de l'armée des États-Unis en Barme. C'est-à-dire... La Seconde Guerre mondiale, il était docteur en Barme. Et après, il était rentré en Europe.
À la fin de la guerre, il rejoint les organes dirigeants du Parti communiste tchécoslovaque et joue donc ce rôle dans sa prise de pouvoir. Pourtant, il est bien mal récompensé de ses efforts puisqu'il est victime des mesures antisémites impulsées par Staline et est évincé de ses fonctions. František Rigl poursuit ses activités médicales et est même envoyé dans le Cuba de Fidel Castro au début des années 1960, superviser la mise en place du système de santé de ce pays. À son retour, il réintègre les sphères dirigeantes du parti et y mène le combat idéologique en faveur d'une libéralisation du régime, à tel point qu'il devient l'un des leaders du printemps de Prague. Interrogé à l'époque à la télévision sur son appréciation des événements en cours en sa qualité de médecin, František Rigl répondait.
Écoutez, c'est une question quelque peu surprenante. Tout ce qui contribue à l'épanouissement de la pensée et de l'économie de notre République est bon pour le système de santé, pour ce domaine où j'ai exercé toute ma vie et donc pour les médecins et leurs patients.
Après son bruyant refus de l'occupation soviétique, František Rigl s'illustre à nouveau en votant non, en compagnie de seulement 4 parlementaires, à cette intervention des forces du pacte de Varsovie. Expulsé du parti communiste en 1969, surveillé par la police, il passe dans la dissidence dans les années 1970 et est l'un des premiers signataires de la charte 77 aux côtés de personnalités comme Václav Havel. L'heure était venue pour František Rigl de tirer sa révérence.
Il mourra bientôt après la charte 77, c'est-à-dire il mourra en 1979. Et l'État a eu peur, les communistes, le Parti communiste normalisateur de Roussac a eu peur que ses funérailles. Serait un protest public, c'est-à-dire... Il a été enterré en secret sans la possibilité des gens de participer aux funérailles.
Depuis 1987, en hommage à sa mémoire, la fondation de la charte 77 décerne chaque année le prix František Rigl à des personnalités ayant fait preuve de courage dans la défense des droits de l'homme et des libertés civiles.
Voilà, c'est avec ce portrait de František Křígl, le seul dirigeant tchécoslovaque à avoir refusé de signer le protocole de Moscou en 1968, que s'achève notre émission du jour. Merci beaucoup de l'avoir suivi, merci de votre immense fidélité et n'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet où vous vous trouvez peut-être déjà, mais surtout sur les réseaux sociaux, sur Twitter et également sur Facebook. À très bientôt les amis, ahoy. Thank you.